Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode, nous aborderons le développement de la justice climatique et environnementale et la façon dont les affaires qui sont portées devant les tribunaux entrent en résonance les unes avec les autres. Nous nous arrêterons également sur la consécration du droit à un environnement sain et de sa mobilisation devant les juridictions. Le 29 mars 2023, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui a été qualifiée par beaucoup comme étant historique. Elle visait à clarifier les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. Cette résolution a pu être adoptée après une intense mobilisation qui avait été à l'initiative des îles Vanuatu, qui sont des îles en première ligne, bien sûr, des effets dévastateurs du changement climatique. Cette résolution vise à donner mandat à la Cour internationale de justice pour préciser dans un avis les obligations qui incombent aux États dans la protection du système climatique pour les générations présentes et pour les générations futures. Cette résolution, bien sûr, n'aurait pas pu voir le jour si un mouvement de très grande ampleur ne s'était pas déployé de façon totalement décentralisée à l'échelon des juridictions nationales de première instance. Il s'agit du développement des contentieux climatiques et environnementaux. Ce déploiement, et même ce foisonnement, puisque les procédures se répondent les unes aux autres, n'allait pas forcément de soi. On lui a opposé la séparation des pouvoirs, l'orthodoxie des catégories juridiques et même un rôle presque dévoyé des acteurs de la société civile. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camilla Peruzzo. Bonjour Camilla.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paul Valéry, Montpellier 3, et vous avez consacré votre thèse de doctorat au droit à un environnement sain en droit international. Alors Camilla Peruzzo, je voudrais déjà qu'on aborde les raisons pour lesquelles les acteurs de la société civile ont décidé de porter la lutte pour un environnement sain, la lutte contre le changement climatique, la lutte aussi contre l'effondrement de la biodiversité dans les prétoires. Pourquoi incarner cette lutte dans ce lieu qui n'est pas naturel pour les acteurs de la société civile ?
Alors effectivement, on voit depuis quelques années les acteurs de la société civile investir les prétoires pour essayer de lutter notamment contre les changements climatiques. On voit notamment l'urgence climatique et environnementale qui est de plus en plus dénoncée par les scientifiques. Donc les travaux du GIEC le démontrent, aussi les travaux de l'IPBES, c'est la plateforme pour la biodiversité, alors que les réponses, par exemple sur le niveau international, ne sont pas à la hauteur. Les négociations internationales sont toujours très lentes face à cette urgence. Les réponses qui sont données, par exemple, dans le cadre de l'accord de Paris, sont certes très positives, mais encore, il faut les mettre en œuvre.
C'est un problème d'effectivité.
Absolument. Donc, on trouve un problème d'effectivité sur le plan international. Les États confrontés, voilà, toutes les difficultés confrontées, que nous sommes confrontés à la souveraineté, au volontarisme des États, alors qu'il n'y a aucun mécanisme contraignant pour que les États respectent leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En même temps, on voit sur le plan national une prolifération de la normativité environnementale, alors que l'effectivité est toujours une vraie question, une vraie difficulté. Donc, notamment pour que les acteurs puissent trouver une effectivité, puissent répondre à cette urgence, ils commencent à mobiliser l'arme du droit devant le prétoire, convoquant ainsi les juges à répondre, à participer aussi à cette lutte climatique et environnementale.
Et alors, quels sont les types de procédures contentieuses qui sont mobilisées ?
Alors, donc là, c'est aussi quelque chose d'assez passionnant pour l'évolution et les transformations aussi du droit. On voit donc sur le plan national la première affaire emblématique climatique, donc Urgenda, qui a été apportée exactement aux Pays-Bas, dont la décision a été rendue en 2015. Les acteurs, donc la fondation Urgenda, elle se fondait sur le droit civil, en fait, sur le duty of care, pour obligés pour faire pour demander à l'État qu'il réduise sa trajectoire, ses émissions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est là on a utilisé le droit civil, le duty of care. On voit aussi, par exemple, dans l'affaire du siècle, la mobilisation de la carence fautive, donc encore un autre fondement juridique pour contraindre l'État à respecter ses émissions. On voit aussi, et là, il y a tout un nouveau mouvement aussi de la mobilisation des droits fondamentaux comme étant les fondements donc de ces actions climatiques. Donc, il y a tout un éventail de possibilités en fait juridiques pour enjoindre les États à faire face, à lutter contre les changements climatiques et réduire leurs émissions.
Et donc sur le climat, on a deux types d'actions, celles qui dénoncent une inaction pour réduire les gaz à effet de serre et puis aussi celles qui dénoncent un défaut des stratégies d'adaptation au changement qui est déjà en cours. Quand vous parliez de la mobilisation des droits de l'homme, des droits humains, c'est quel type de droit ? C'est le droit à la vie, le droit à une vie privée et familiale ? Quels sont les droits qui sont mobilisés ?
Alors, on va, si on prend les cas européens, par exemple, on va voir la mobilisation des articles de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment. Et là, effectivement, on va voir les droits à la vie, les droits à la vie privée et familiale. On va voir aussi la mobilisation dans d'autres espaces normatifs, par exemple, des questions relatives aux droits de propriété, par exemple, des communautés affectées, des peuples autochtones. Et là, on peut retenir justement sur la question de l'adaptation, une décision récente de l'année dernière, 2022, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, donc la première décision sur le plan international concernant les changements climatiques. Donc dans cette décision, donc Daniel Billy et autres contre l'Australie, il était question d'un peuple autochtone, donc des îles du détroit de Torres, qui subissent déjà les conséquences néfastes des montées du niveau de la mer et qui, par conséquent, affectent leur mode de vie traditionnel, leur culture. Et là, le Comité des droits de l'homme a non seulement retenu à la violation du droit à la vie privée et familiale et au domicile, mais aussi le droit à la culture. Donc, tous ces rapports que les peuples autochtones ont avec leurs terres traditionnelles qui a été mise en avant en raison du manque des stratégies d'adaptation de la part d'Australie pour protéger ces peuples-là.
Et on voit aussi que, en tout cas dans un cadre donc du droit continental comme en France, que ces procédures ont tendance à percuter l'orthodoxie de nos catégories juridiques, notre façon d'appréhender le lien de causalité, l'évaluation du dommage causé aussi, et puis comment on s'appuie sur des modélisations scientifiques pour pouvoir déterminer l'impact sur les générations futures. Tout ça est un petit peu pour beaucoup de magistrats. Qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là?
Alors, c'est vrai que c'est aussi extrêmement intéressant de voir comment l'expertise scientifique, elle est mobilisée par les requérants et comment les juges vont s'approprier de cette expertise pour pouvoir fonder sa décision. Donc, on voit Urgenda, c'est clairement, les juges, il va vraiment se fonder sur les travaux du GIEC, mais non seulement, enfin les travaux aussi scientifiques qui ont été soulevés par les requérants. La décision dont je parlais tout à l'heure du Comité des droits de l'homme, le comité, il va véritablement s'appuyer sur les constatations scientifiques pour pouvoir retenir le lien de causalité entre la violation des droits de l'homme
et les
dommages présents et futurs. Donc il y a vraiment une opération assez intéressante de cette appréhension des questions scientifiques, en fait, des constatations scientifiques. Donc aujourd'hui, ce que j'observe dans ces décisions, dans ces différents contentieux, c'est qu'on n'a plus, en fait, c'est une donnée. La donnée scientifique, elle est là, on s'appuie sur elle pour pouvoir établir les liens de causalité.
Et donc les batailles juridictionnelles, elles portent sur l'analyse qu'on peut faire sur la solidité des modélisations qui sont faites, comme autrefois quand la preuve ADN est arrivée dans les tribunaux, où il y a eu des batailles d'interprétation des analyses scientifiques. Est-ce que c'est là-dessus que ça se porte ?
Après, effectivement, je pense que ce qui va évoluer, c'est qu'on va observer, sans doute dans un avenir proche, c'est de voir est-ce que, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, c'est vrai que les constatations scientifiques, elles sont un peu incontestables.
Donc, c'est un consensus fort.
Il y a un consensus fort, donc les GIEC fait autorité, les instances aussi nationales scientifiques font vérité. Et là, on n'hésite pas, c'est vraiment la solidité de l'argument qui repose sur ces arguments. Après, tout est contestable.
Bien
et
bien
je pense
sûr.
Que oui, aussi, on sera amené à l'avenir à voir si effectivement ce constat-là, il a effectivement pris en compte d'autres perspectives, d'autres perceptions. Et je pense notamment aux communautés locales, comment elles s'approprient ces données scientifiques, comment elles considèrent qu'on peut effectivement faire face, notamment dans les cadres de l'adaptation. Est-ce que les réponses données, apportées par une science universelle, est adaptable à chaque réalité? Et je pense que l'enjeu, effectivement, de cette appréhension de la science se jouera là-dessus. En revanche, le fait que la planète réchauffe et qu'il faille réduire les émissions, etc., je pense que ça, c'est incontestable et c'est une vraie base pour les juges pour pouvoir comprendre et tenir en compte dans l'établissement du lien des causalités.
Est-ce qu'il y a encore des juridictions qui sont réticentes à faire ce lien entre changement climatique, effondrement de la biodiversité, problèmes environnementaux et précarisation des droits humains ?
Alors, oui, ce ne sont pas toutes les requêtes qui trouvent une satisfaction. Je dirais que c'est peut-être moins du fait du constat scientifique et plus potentiellement de l'argument juridique qui est soulevé et de comment on établit ces liens de causalité. Donc je prends encore un autre exemple de contentieux d'une affaire climatique internationale, donc l'affaire qui a été très médiatisée de Greta et d'autres enfants qui a été portée devant les comités des droits de l'enfant et dans ces cas le
comité Nations Unies.
Exactement.
Au titre des communications individuelles.
Absolument, exactement. Et là, le comité a retenu l'irrécevabilité de l'affaire.
Et la France faisait partie donc, des France États qui étaient partie, visés
absolument.
Parmi bien d'autres.
Oui, exactement. Donc il avait la France, il avait l'Argentine, le Brésil, enfin il avait d'autres États dans le monde. Donc le comité n'a pas retenu la recevabilité de l'affaire. Les conditions de recevabilité dans ces cas n'étaient pas tout à fait réunies. On mettait en cause les questions extraterritoriales. Donc, c'était quelques requérants qui étaient... Donc, on mettait plusieurs États en cause. Donc, ce qui est très compliqué aussi. Donc, il y a la question climatique vient aussi mettre au défi l'extraterritorialité de la protection des droits. Donc, là, ce qui est intéressant dans cet argumentaire, c'est que même si on n'a pas retenu, si le comité n'a pas considéré que les conditions de recevabilité étaient réunies, le comité a quand même dit que les enfants subissent la violation de leurs droits et subiront la violation de leurs droits
du fait
du changement climatique, qu'il y aura des conséquences sur leurs droits à la vie, sur les générations futures, etc. Donc je pense que la constatation
principale était là.
Elle était là, même si l'argumentaire, en l'occurrence, n'a pas été
retenu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour tous ceux qui adorent le fonctionnement de la fertilisation croisée des différents droits et l'évolution vers un droit mondial, cette émergence-là que beaucoup appellent de ses voeux, on voit qu'en fait, on est sur un mouvement décentralisé puisque ça se passe dans plein d'endroits différents, devant des juridictions administratives, judiciaires, enfin selon les constitutionnels, enfin selon les systèmes des différents États, alors que les droits sont extrêmement différents et que les militants observent ce qui se passe et que même les magistrats observent aussi comment certaines requêtes ont été traitées par leurs homologues des autres pays et qu'on est dans une approche vraiment bottom-up pour faire émerger ce lien entre droits humains et environnement, droits humains et climat, droits humains et biodiversité. Ce mouvement est tout à fait atypique de la façon dont ça se construit, qui est plutôt une approche par la négociation entre États en haut. Qu'est-ce que vous pouvez observer de cette évolution-là ?
Il est vrai que, comme vous dites, c'est le changement climatique, c'est un phénomène global, mondial, ça touche à tous, et tous sont concernés. Et c'est intéressant de voir cet effet, en fait, de fertilisation croisée dont vous parliez, que les requérants le font. Donc, les ONG, notamment, qui accompagnent ces requérants, sont organisées dans des sortes de réseaux transnationaux et qui vont s'appuyer, donc ces différentes ONG vont s'appuyer sur les différents argumentaires pour pouvoir construire les leurs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment les juges, lorsqu'il est mené à rendre la décision, il peut aussi s'appuyer sur des décisions d'autres juridictions, alors que les systèmes ne sont pas nécessairement le même. Et là, je pense à une décision qui a été rendue par la Cour suprême supérieure brésilienne, la Cour fédérale, le supérieur tribunal fédéral. C'était une décision concernant le financement climatique, le fonds climat. Et dans les raisonnements, l'un des juges s'est appuyé sur la décision qui avait été rendue par la Cour suprême allemande sur la question des générations futures. Donc c'est intéressant de voir.
Et au visa de cette décision-là de la Cour allemande, comme, c'est juste dans, l'état du droit observé ailleurs, comment c'était amené par le juge?
Le juge, il va dire, il était une question justement le financement pour la protection des droits des générations futures. Donc la Cour suprême brésilienne, il y a la possibilité pour les juges d'exprimer dans leur vote, en fait, les fondements, ce qui les a conduits à adopter un tel raisonnement. Et là, le juge, il va vraiment dire, donc c'est cet enjeu-là de la protection des intérêts des générations futures qui était au cœur de nos discussions pour qu'il y ait cette décision du fonds climat. Et la Cour supérieure allemande, elle va dans cette direction-là, et c'est dans cette direction qu'on est justement en train d'adopter cette décision. Donc c'est vraiment un appui, en fait, les juridictions qui s'appuient sur les innovations finalement juridiques que font les juges nationaux d'autres.
Donc on voit donc au niveau des juges nationaux, et puis on voit aussi que dans les espaces régionaux, je pense à la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou à la Cour européenne des droits de l'homme, on voit qu'il y a aussi une tentative donc d'aller devant ces juridictions-là pour avoir quelque chose qui ressemble à un début d'harmonisation, pour justement faire ce lien avec les droits humains. Mais qu'en est-il de l'exécution de ces décisions de justice ?
Alors, on va voir donc ces décisions sur le plan national. On va notamment voir, le juge va notamment demander faire des injonctions d'agir, donc demander aux États qu'ils agissent pour protéger les personnes, enfin pour réduire les émissions, etc. Notamment, ce qu'on va, et parce que dans le contexte climatique, ce qu'il faut, ce sont des stratégies, des mesures sur le temps. Donc, il faut des trajectoires.
Des trajectoires qui soient
Et là, donc on voit que les États sont obligés de réagir. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, par exemple, et là, avec aussi la décision rendue par la Cour allemande, en déterminant à l'État justement de revoir sa loi sur le climat. Mais on voit aussi dans d'autres espaces normatifs, et je pense à une décision colombienne qui est une action sur la base des droits fondamentaux qui avait été portée par des jeunes et aussi au nom des générations futures, où la Cour constitutionnelle colombienne a demandé à ce qu'un pacte soit élaboré, donc un pacte pour faire un accompagnement des trajectoires, en mobilisant en fait différents acteurs qui étaient concernés par la déforestation de l'Amazonie, etc. Donc ce sont aussi des injonctions assez intéressantes, parce que ça produit aussi des nouvelles formes de gouvernance, des nouvelles formes de lutte finalement contre les changements climatiques. Après, bon, enfin, c'est peut-être encore tôt pour qu'on voit effectivement les résultats de ces injonctions, de ces mesures qui sont déterminées par les juges.
Il y a eu aussi des décisions qui ont été donc de faire exécuter par l'exécutif, avec des astreintes qui ont été prononcées.
Absolument.
Dont le calcul de l'astreinte était pour revenir dans les poches des associations et non pas dans les poches de l'État. Sinon, ça n'a aucun sens de mettre sous astreinte un État qui récupérera les financements.
Oui, absolument, absolument. Donc il y a vraiment une mise assez importante de contraindre les États à agir et à répondre à l'urgence. Et
on a vu aussi, dans l'affaire du siècle en France, mais dans d'autres affaires similaires, qu'il y avait une mobilisation citoyenne très forte. L'affaire du siècle qui a eu lieu en même temps que ce portage par ces associations devant le tribunal administratif. Il y a eu aussi 2 millions de personnes qui ont signé une pétition. Donc, c'est aussi un effet de mobilisation citoyenne.
Absolument. Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de ces contentieux stratégiques. Donc, parce que, bien évidemment, on veut que les personnes potentiellement soient réparées ou soient, que leurs droits soient protégés. Mais il y a aussi tout cet effet médiatique. Parce que c'est vrai, quand on arrive au contentieux, c'est parce qu'il y a eu toute aussi
des mises en demeure.
Exactement. Une structuration de ces contentieux. Et on voit, les ONG choisissent quelles sont aussi les personnes qui vont potentiellement incarner cette requête. Donc il y a tout un... C'est, ça sert à ça aussi, les contentieux stratégiques. Ça sert aussi à développer l'opinion publique.
Et un plaidoyer politique.
Absolument.
Alors qu'est-ce qu'apporte la nouvelle consécration du droit à un environnement sain?
Alors, c'est un droit qui était déjà reconnu dans plusieurs au sein de plusieurs États. C'est un droit qui était reconnu dans le cadre du système interaméricain et du système africain de protection des droits de l'homme. Et il est vrai que l'année dernière, l'Assemblée générale des Nations Unies l'a reconnu sur le plan universel. Donc, c'est un pas immense pour l'établissement de ces liens entre la protection de l'environnement et la protection des droits de l'homme, parce que jusqu'à récemment, on ne considérait pas nécessairement qu'il s'agissait des questions interdépendantes, de questions qui pouvaient aussi se bénéficier des stratégies de protection d'un corps plus normatif et de l'autre.
Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ce droit à un environnement sain et le mobiliser devant les juridictions nationales?
Alors là, c'est peut-être... Ça dépend si l'État il a déjà reconnu ses droits dans son ordre interne, bien évidemment. Et d'ailleurs, on s'appuie sur ces droits dans plusieurs contentieux
climatiques. Et ça peut être le juge qui l'admet. Donc ça peut être une création prétorienne.
Ça peut être une création prétorienne, absolument. Après, est-ce qu'il va effectivement se fonder sur la résolution des Nations Unies? Enfin, ce n'est pas un lien. Il peut, bien évidemment. Mais ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas? Parce que voilà, la résolution,
elle n'est pas contraignante.
Elle n'est pas contraignante, elle n'oblige pas à ce que les États intègrent ces droits sur le plan interne. Mais ça crée, justement, et c'est ça qui est puissant, ça crée ces mouvements dans lesquels les États, ceux qui n'ont pas encore reconnu ces droits, auront la possibilité de reconnaître par le biais législatif ou constitutionnel. Et puis, effectivement, ça crée tout un mouvement aussi, ça induit un mouvement... légitimation de cette reconnaissance, pour que potentiellement les juges aussi puissent intégrer comme étant un fondement de ces décisions. Et plus largement, ça crée tout cet effet interprétatif aussi. Ça permet à la société civile de s'emparer davantage de cette notion et ainsi créer aussi un cercle vertueux dans l'établissement de ces liens droits de l'homme et environnement par le biais du droit à un environnement sain.
Merci beaucoup Camilla Peruzzo.
Je vous remercie.
Ce que je retiens de cet échange avec Camilla Peruzzo, c'est que nous sommes face à des innovations, à tous les étages, des innovations de la part de la société civile qui s'emparent des procédures juridictionnelles de toute nature dans les États. Une innovation aussi de la part des tribunaux eux-mêmes, des magistrats, des avocats, qui finalement opèrent à bas bruit une transition juridictionnelle avec une redéfinition des cadres habituels de pensée pour pouvoir s'appuyer sur des travaux scientifiques, des modélisations, donc des choses qui sont pas absolument certaines et qui peuvent être sujets à éventuelles discussions, si ce n'est à controverse, pour pouvoir saisir les impacts sur les générations actuelles et futures, ce qui est encore plus délicat. On voit aussi que c'est une appropriation de ces sujets qui sont éminemment techniques par le bas, par les citoyens eux-mêmes, par les acteurs de la société civile, et que progressivement, ça remonte tous les échelons pour pouvoir arriver à imposer la consécration d'un droit fondamental, universel, intangible et interdépendant des autres droits à la reconnaissance d'un environnement sain. Donc c'est plutôt une perspective extrêmement réjouissante.
Depuis des années, les militants des droits humains, les organisations non gouvernementales dans le monde ont combattu, se sont battus pour faire en sorte que le droit de l'environnement, le droit à l'environnement sain, soit reconnu comme un droit humain universel par les Nations Unies, suscitant beaucoup d'espoir de voir ensuite se développer des normes sur le plan national. Et en 2021, le Conseil des droits de l'homme, dans une première résolution, a reconnu qu'effectivement, le droit à un environnement sain était un droit humain, et ensuite l'Assemblée générale, l'année suivante, en 2022, l'a consacré comme un droit universel. Depuis cette consécration, cet espoir s'est maintenant transformé en une aspiration beaucoup plus concrète, de voir non seulement cette reconnaissance se faire sur le plan formel, sur le plan international, et de voir ensuite se développer sur le plan national des normes qui permettraient d'avancer un peu plus loin. Et il faut rendre hommage à un militant infatigable qui était mon collègue John Knox, le premier rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'environnement, qui a bataillé pour faire en sorte que ce droit soit enfin reconnu sur le plan universel.
My name is John Knox. I'm a professor at Wake Forest University in North Carolina in the United States. And in 2012, the Human Rights Council at the United Nations appointed me to be the first independent expert on human rights in the environment. And in 2015, reappointed me for another three-year term. In that position, I studied the relationship of human rights and the environment. I visited different countries, and I saw firsthand how human rights norms were increasingly being brought to bear on environmental issues all over the world. This process has many aspects. Perhaps the most notable one in recent years was the recognition in 2022 by the United Nations General Assembly of the human right to a clean, healthy and sustainable environment for the first time at the international level. The remarkable thing about the recognition of that right, however, is that in many ways the United Nations was already following in the footsteps of the more than 160 countries in the world that already included the right to a healthy environment in their national constitutions or domestic legislation or regional treaties. And in my time following this issue, I've been privileged to witness firsthand the way in which the right to a healthy environment and other human rights are increasingly being applied at the judicial level in countries all over the world. They are the basis for suits brought by children and youth to try and change governments' policies on climate. They're the basis for suits against particular companies that contribute to pollution or other environmental degradation. And they're really revitalizing environmental protection in more ways than it's possible to briefly name. But they give a kind of hope, I think, that has been absent from the environmental movement for many years. In climate in particular, There's a huge sense of disappointment and frustration about how slowly governments are moving to implement their own commitments under the Paris Agreement. But by bringing cases directly to court, it provides children, youth, and others the ability to try and move the process along more quickly by claiming what they have been recognized as having, that is the right to live in a clean, healthy, and sustainable environment. And increasingly, courts in many countries are recognizing that right and responding with powerful decisions to enforce it.
Merci à tous, j'espère que vous aurez du plaisir à nous retrouver pour les prochains épisodes. Au revoir.
Au revoir. Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.